Nous avons choisi de vous parler d'Anne.
Non, pas d'Anne. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
Ou plutôt notre aïeule, Anne, car nous avons grandi dans le même coin. Nous allons vous raconter l'histoire d'Anne de Bretagne. Pourquoi?
On vient de le dire, c'est une figure locale, une femme, et en plus, qui est exceptionnelle. C'est la seule à avoir été sacrée reine de France 2 fois.
2 fois? Alors qu'elle est morte à 37 ans et que beaucoup d'hommes lui ont été promis?
Il n'y a pas que ça que nous avons aimé chez elle. Son combat, sa pugnacité, sa loyauté, sa fidélité, sa culture. Anne est un personnage très important dans l'histoire de la Bretagne. Née le 25 ou 26 janvier 1477,
on ne sait pas exactement,
elle reçoit une promesse de mariage du prince de Galles.
Rien que ça, alors qu'elle n'a que 4 ans.
Et oui, à l'époque, on s'y prenait de bonne heure pour préparer un mariage princier. Elle préférait sans doute jouer à la poupée. Et savez-vous pourquoi on l'appelait Anne de Bretagne?
Parce qu'elle est née à Marseille, peu cher.
Mais non, voyons, elle est née à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, à l'époque où Nantes appartenait à la Bretagne.
Hé, Nantes est toujours en Bretagne, hein?
Mais non, comment tu peux dire une chose pareille?
Bon, cela est un débat d'un autre temps. Elle a donc grandi entourée de bigoudens et nourrie exclusivement de galettes, de petits beurres et de kouign-amann.
Non, non, nous nous égarons. Cela aussi est un autre temps.
Revenons à Anne. Cette future duchesse, cette future reine, va vivre une vie pleine de suspense et de découvertes. Elle a 2 objectifs. Garder le duché de Bretagne indépendant et agrandir son territoire tout en tenant tête à ses ennemis. Va-t-elle y arriver ? Pour le savoir, écoutez son incroyable odyssée.
Il était une fois...
Fois Marguerite, 2 fois qui vendait, 2 fois dans la ville, 2 fois...
Non, non ! Nous sommes pas dans un conte, et surtout pas dans celui-là. Reprenons.
À Nantes, vivaient Marguerite de Foix et François II, respectivement duchesse et duc de Bretagne. Durant la guerre de 100 ans, la Bretagne, qui est encore indépendante, choisit son camp, entre l'Angleterre et la France, en fonction des intérêts du territoire.
Je vous soutiens, vous, peuple anglais. Je vous soutiens, vous, peuple français.
À la fin des années 1450, la Bretagne sort de ce conflit plutôt riche, notamment grâce à son sel. Vous avez certainement entendu parler du fameux sel de Guérande. Ce condiment rare, à l'époque, servait à conserver les aliments et aussi de monnaie d'échange. Au début des années 1470, le duc de Bretagne, François II, veut garder sa Bretagne indépendante. Et il est en conflit avec le roi de France, Louis XI. C'est dans ce contexte que naît notre petite Anne de Bretagne, qui pointe le bout de son nez le 25 ou 26 janvier 1477. La naissance d'une fille à cette époque fait émerger des idées de stratégie politique.
Il faut un soutien puissant pour l'indépendance de la Bretagne. Je vais marier Anne au prince Édouard de Galles, le fils du roi d'Angleterre.
C'est ainsi que 4 ans plus tard, le duc et la duchesse de Bretagne reçoivent une promesse de mariage pour que Anne épouse le prince charmant, le prince de Galles. Le mariage avec Édouard n'aura finalement pas lieu. Malheureusement, ce dernier est assassiné par un vagabond.
Mais non, mais non.
Mais non, mais non. Mais non, mais non.
Ça reste en famille. C'est son oncle qui a fait le coup pour obtenir le pouvoir et devenir le roi d'Angleterre. Rien d'anormal.
Cette mort met ainsi fin aux espoirs d'une alliance familiale, diplomatique et militaire entre l'Angleterre et la Bretagne qui aurait permis de tenir la France à distance du duché de Bretagne. En 1486, Anne reçoit de ses parents leur plus grand héritage. Le duché de Bretagne. À 11 ans, elle devient donc duchesse de Bretagne.
Pas trop tôt.
Même si elle ne prendra ses fonctions que lorsque ses parents décéderont.
Bien assez vite, malheureusement.
À cette époque-là, pour le plaisir d'Anne, le château des Ducs de Bretagne accueille une ménagerie, pas loin d'une douzaine d'animaux sauvages, comme des lions, des loups, des lynx. Ils sont sortis lors des grandes occasions et on peut encore voir des références animales sur la façade du château. Un singe y joue les troubles fêtes.
Vous tenterez de le voir lors de votre prochain séjour dans la cité des Ducs. D'ailleurs, on peut aussi y croiser un éléphant.
C'est un beau château avec deux façades, celle que l'on voit de l'extérieur défensive avec ses tours, ses douves, son pont-levis et ses meurtrières. On affiche d'ailleurs un grand blason aux armes de la Bretagne sur la tour de la boulangerie qui fait face à la tour du pied de biche. La façade intérieure, elle, est plus lumineuse, blanche grâce à la pierre de tuffeau, avec de belles sculptures et qui, elle, continuera d'évoluer avec le temps et les travaux. On trouve dans la cour du château un puits servant à alimenter en eau les cuisines et permettant d'assouvir la soif des animaux de la ménagerie. Une couronne en fer avec des fleurs dorées le surmonte et lorsque le soleil miroite sur l'eau, une rosace apparaît. Le goût de la finesse, de la beauté, de l'art se transmet partout dans le château.
Malheureusement, la roue tourne et après ce bonheur, la même année, sa mère Marguerite de Foix décède. Les conflits entre le duché de Bretagne et le royaume de France persistent. Un an après le décès de Marguerite, le duc se réfugie à Nantes au château des Ducs après sa défaite contre le roi de France sur les terres bretonnes. Nantes est brutalement assiégée par le roi Louis XI, celui-ci voulant sans doute s'approprier les richesses du territoire de François II. Les boulettes de canon fusent, c'est insupportable et cela fait beaucoup de dégâts. Pour mettre fin à ce siège terrible, Anne est contrainte de soumettre son mariage à l'accord du roi de France Charles VIII. À ses débuts compliqués viendra s'ajouter la mort de son père qui, déjà bien affecté par la perte de l'indépendance de sa chère Bretagne, mourra d'une chute de cheval en 1488. À cette date-là, Anne n'a que 11 ans. Elle est alors placée sous la tutelle du maréchal de Bretagne qui veut la marier au capitaine du château de Nantes.
Quelle vie pour une jeune fille au Moyen-Âge! Mais trouver un mari est l'occupation préférée de mon entourage, on dirait. Mais non! Qu'on me laisse choisir mon mari! Je ne veux pas du capitaine d'Albret! Il me faut un époux puissant pour défendre mes droits et ceux de la Bretagne! Maximilien d'Autriche serait parfait.
Mais son nouveau tuteur refuse ce mariage, et Anne se retrouve dans l'obligation de se réfugier à Rennes. Car le maréchal de Bretagne et le capitaine du château, qui est certainement vexé d'avoir été rejeté, lui ferme l'accès à la ville de Nantes, certainement par vengeance.
Quel mauvais perdant!
Dans cette ville bretonne, elle y est couronnée duchesse. Malgré tout, Anne parvient à se marier avec Max, Maximilien d'Autriche. Elle devient donc en 1490 la reine des Romains. Malheureusement, cette union se révélera décevante et elle ne sera pas à la hauteur de ses attentes. Max a un empêchement et ne sera même pas présent à son mariage.
Ça n'arrive pas tous les jours, ça! Bon, d'accord, c'est un mariage politique, mais il y a des codes à respecter.
D'ailleurs, au Moyen-Âge, le mariage est, disons, validé lorsque les épouses se retrouvent dans le même lit.
Allez, les dents, pipi et au lit!
C'est ainsi que le conseiller de notre Maximilien, qui, lui, s'est déplacé pour représenter le roi d'Autriche, se retrouve à jouer l'équilibriste pour ne mettre qu'une jambe dans le lit conjugal, sans pour autant manquer de respect à la reine Anne.
François II abusait souvent des impôts sur les paysans. Ces derniers étaient donc régulièrement en conflit avec l'administration bretonne. Charles VIII profite de ces conflits pour assiéger Rennes dans le but de casser le mariage entre Anne et Maximilien.
Et si en plus je pouvais en profiter pour m'accaparer cette chère Bretagne, ce serait royal.
Charles souhaite épouser Anne, mais elle refuse.
Non, pas question!
Il ne lâche pas l'affaire pour autant. Un jour, il eut du sèchement.
Ton mariage n'a jamais existé. Penses-tu que la jambe d'un homme qui n'est pas ton épouse soit le signe d'un vrai mariage? Alors, épouse-moi.
Anne finit par céder, car c'était la seule solution pour mettre fin au conflit entre le royaume de France et ceux qu'elle considérait comme son peuple. Ainsi, le 6 décembre 1491, elle se marie avec Charles VIII, qui devient donc le duc de Bretagne. Pour l'occasion, elle porte une magnifique robe de soirée, doublée de fourrure et ouverte sur la soie blanche. Son voile est orné de perles et de l'or vient éliminer sa ceinture et ses boucles. Malgré les accords, Charles VIII prend les rênes de la Bretagne. Il débretonnise l'administration, ne demande plus le consentement d'Anne et baisse même les impôts en Bretagne. Grâce à ce mariage, il prend possession des terres bretonnes.
Au château, il peut contempler les richesses acquises par son épouse et continuera de la gâter énormément et de la couvrir de cadeaux qu'il rapporte de ses nombreux voyages. Environ 1500 livres imprimés et enluminés, des tableaux, des orfèvreries, des bijoux, des tapisseries, des meubles d'ébénisterie, des étoffes de luxe, des linges rares venus de toute l'Europe, notamment d'Italie, ont lieu des guerres. Anne est cultivée et cultive également le beau, grâce à l'emplacement idéal du château de Nantes qui facilite le commerce via la Loire. Pour la première fois, Anne devient donc reine de France le 8 février 1492. Ce jour-là, c'est une première dans le royaume de France. Anne est exceptionnelle, elle bénéficie d'un sacrement lors de ce couronnement à la basilique de Saint-Denis. Les sentiments entre eux évoluent donc, sans doute vers un véritable amour. Charles VIII a d'ailleurs beaucoup fait pour la Bretagne en ce qui concerne les impôts, la nomination du ministre sur ce territoire. Le jour où Charles meurt, sans lui laisser d'enfants car leurs trois enfants n'avaient pas survécu, Anne s'enferme pendant une semaine dans sa chambre, dans le noir, sans manger.
Mais au fait, comment est-il mort le roi de France ?
Son cher époux décède accidentellement en 1498 pendant un tournoi de joute. Il se cogne violemment la tête contre une poutre.
Dans le mille !
Il est probablement mort d'une commotion cérébrale. Anne est bouleversée et ne cesse de se remémorer les paroles d'il y a quelques semaines, avant que Charles VIII ne l'abandonne. Ils avaient passé un pacte. Son roi lui avait dit, sur un ton impératif, comme les hommes ont toujours risé auprès d'elle,
« Si je meurs, tu devras te marier avec le prochain roi de France. »
Anne épousa donc Louis XII, roi de France, qui était aussi un ami d'enfance, qui avait lutté aux côtés de son père lors du siège de Nantes.
Mais Louis XII n'était pas déjà marié ?
Ah si, mais comme il n'avait pas d'enfant avec sa femme, il a fait annuler son mariage et hop, cool !
Il peut épouser Anne. Cette fois-ci, Anne ne veut pas se faire avoir par son mari. Elle fait noter dans son contrat de mariage avec Louis XII que la gestion de la Bretagne lui revient. Au début de l'année 1499, elle reprend le pouvoir. Et pour affirmer l'indépendance de son cher territoire, elle fait battre une monnaie à son effigie, l'Acadière. Anne veut s'affirmer, elle veut passer plus de temps dans son château à Nantes que lorsqu'elle vivait avec Charles VIII. Elle veut emprunter cette unique route par laquelle on entre dans sa ville natale. D'ailleurs, c'est elle qui choisit le lieu de son mariage.
Il a lieu chez elle, dans la chapelle de son château.
Elle continue de le rénover, elle qui aime lire, qui aime la beauté des choses. Elle s'inspire de l'architecture italienne et fait construire des loggias dans la tour de la couronne d'or, véritable symbole de puissance avec sa dentelle de pierre de tuffeau. Elle et Louis XII s'y présentent devant la population. Anne s'y installe pour lire, pour broder.
Elle s'épanouit dans ses loisirs. Elle aime chasser aux faucons dans les forêts avoisinant Nantes. Elle a appris avec Jean Méchineau, un poète de la cour lorsqu'elle était enfant. Elle est toujours aussi curieuse et cultivée. Elle devient mécène. Elle confie la mission d'un somptueux tombeau pour ses parents à deux artistes, Colombe et Périal. Les deux gisants y sont représentés entourés de nombreuses sculptures et de quatre statues féminines aux quatre coins. Ces dernières représentent la justice, la force, la tempérance et la prudence. Quatre qualités qui ne manquaient pas à Anne. Elle commande également l'impression de deux manuscrits regroupant des prières à son ami d'enfance Étienne Larcher, devenu imprimeur. Les grandes heures, décorées par le peintre enlumineur Jean Boudirchon, et les petites heures, que l'on peut qualifier de livres de poche ou de manche, car c'est l'endroit d'où elle le sortait pour le lire lors de ses voyages ou de ses temps de prière. Ces petites heures ne mesurent que 6,6 cm de haut sur 4,6 cm de large.
Quand la maîtresse voit que parfois on n'arrive pas à écrire sur nos cahiers, quel exploit !
Wow !
Wow ! Wow !
Féministe avant l'heure, elle demande un livre à la gloire de 80 femmes illustres. Avec Louis XII, elle obtient un autre titre, celui de mère. Ils ont deux filles, Claude et Renée. Anne reste fidèle à la mission débutée par son père, en tentant de résister au projet de mariage entre sa fille aînée et François d'Angoulême, le futur François Ier. Elle reste également fidèle à sa ville, car lorsqu'on lui dit que le repos des reines est un Saint-Denis, elle répond que
« Mon cœur demeurera toujours à Nantes ».
Lorsqu'elle meurt le 9 janvier 1514, après une énième grossesse difficile, elle laisse le duché de Bretagne à sa seconde fille, Renée, qui devient duchesse à 4 ans et qui ne jouera donc pas un grand rôle politique. Elle aurait aimé le transmettre mieux à Renée, expliquer ses combats et l'héritage de ses parents, mais elle n'a pas eu le temps de le faire.
Et oui, elle n'avait que 37 ans, pas l'âge de penser ni à la mort ni à l'héritage.
Son corps a été embaumé et puis enterré à Saint-Denis. Mais son cœur a été placé dans un reliquaire et ramené à Nantes, comme elle l'avait souhaité. Dans un ultime geste d'amour pour la Bretagne et son peuple, elle leur a fait cette donation si spéciale.
Son combat pour la Bretagne indépendante s'arrêtait avec sa mort. Puisque 5 mois après la mort de sa mère, Claude se marie avec François d'Angoulême et lui offre en cadeau. La Bretagne. Lorsqu'un an après Louis XII meurt, François d'Angoulême devient François Ier, roi de France, et il intègre petit à petit la Bretagne à la France. La population bretonne, se voyant vivre en paix, et en plus avec des perspectives économiques positives, l'accepte.
Renée aurait dû être duchesse de Bretagne. Elle le sait et le réclamera. Mais sa vie s'étant déroulée en Italie et ses combats étant sans aucun doute moins puissants que ceux de sa mère, ses demandes resteront toujours vaines. Anne n'a vécu que 37 ans, mais sa vie a été riche en rebondissements.
Nous retiendrons que, malgré sa soumission aux règles que devait suivre une fille, puis une jeune fille, puis une femme au Moyen-Âge, elle a maintenu le cap sur sa volonté de protéger la Bretagne et de garder son indépendance.
Elle a œuvré pour la culture et son exception a fait d'elle une double reine de France. Lorsqu'on se rend au château des ducs de Bretagne, on y croise Anne à l'entrée de l'ancien pont-levis. Elle semble déterminée à rejoindre la cour et porte une cape sur laquelle sont dessinées des hermines. Évidemment ! Merci Anne !
Merci Anne !
Nous sommes fiers de transmettre ton combat, ton histoire et ce morceau d'histoire de France. Qui sait ? C'est peut-être toi qui nous mènera à la victoire du concours des Odyssées.
Merci Aude de nous avoir informés sur Anne de Bretagne grâce à des jeux et une visite à Nantes.
Merci à Sarah pour les ateliers d'écriture, de lecture, de son, ainsi qu'à Vanina.
Merci à Coraline pour son aide dans la recherche des livres sur Anne de Bretagne.
Merci à Clément Morénière pour la relecture de l'Odyssée.